Les podcasts Obsession Collective vous souhaitent une très bonne écoute.
Je ne cherche pas la bagarre avec toi. C'est vrai, j'ai des contacts. J'ai le réseau de distribution. Et j'ai assez de muscles pour t'enfoncer ton tapis roulant jusqu'au fond de ton sale trou du cul de macaque. Et t'en chira de la naisse pendant un an.
Franck, crève-moi cette sale gueule de l'homme.
Oh, tout cet acier.
Allons, Salvatore. Il y a un match ce soir. Contre les Tigres.
Je ne veux pas rater ça.
On rigole, quoi.
Je vous préviens, résister provoquera votre mort.
Va te faire huiler!
Nous sommes sur le podcast de La Voix des Masques pour le 4e épisode déjà. Je suis Clément Pelletier, docteur en littérature et culture de l'imaginaire, et je suis comme d'habitude accompagné de Hélène Godin, docteur en études cinématographiques. Salut Hélène.
Salut Clément, tu vas bien ?
Ça va, tranquille. Bah, en plus, je suis très heureux car j'ai reçu une bonne nouvelle qui cadre complètement avec le sujet d'aujourd'hui. Je vais pouvoir participer cette année encore au colloque Stella Incognita qui s'intéresse à la SF et qui cette année va bosser sur tout ce qui est Avenir, Uchronie et compagnie. Et il se trouve que j'ai proposé une communication sur Robocop qui a été accepté juste hier. Donc,
C'est parfait, on est dans le thème.
On est en plein dans le thème, effectivement. Alors bon, bah, comme vous l'avez compris, et comme vous l'avez peut-être vu, si vous suivez les petits teasings sur nos pages de réseau, on va parler de Robocop, tout simplement. Robocop qui est un héros typique de la fin des années 80, et qui a été, bah, comme c'est souvent le cas dans les émissions, en tout cas pour mon cas, un personnage assez marquant, et dans l'histoire du cinéma, il est également assez marquant. Il faut savoir qu'il a eu beaucoup de développement, énormément bien sûr, comme toute saga à succès, des produits dérivés, des suites plus ou moins contestées, plus ou moins appréciées, jusqu'à tout récemment, un jeu vidéo, Robocop Rock City, qui est sorti il y a quelques mois à peine, et qui reprend complètement l'esprit de la saga, surtout du premier film par Verhoeven, et c'est lui qui va nous intéresser, parce que si on se met sur la saga Robocop en entier, on n'a pas fini, donc on s'est dit qu'on allait se concentrer en fait sur le film de Verhoeven, ce qui va nous permettre de parler du style de Paul Verhoeven, qui est très particulier. Moi, Paul Verhoeven est un réalisateur que j'aime beaucoup, tout simplement parce qu'il est aussi contesté qu'adulé. Et ça dépend vraiment de l'époque et du public qui le regarde, en fait. Je pense à typiquement un film comme Starship Troopers. Tout comme Robocop, c'est l'exemple typique du cinéma de Paul Verhoeven, un cinéma extrêmement cynique, justement, qui a été considéré comme fasciste par les uns et complètement libertarien et humaniste par les autres. Donc vraiment, il y a deux sons de cloche et Paul Verhoeven fait partie de ces réals qui sont redécouverts et remis en grâce, en fait, par une partie du public qui change d'opinion ou simplement l'époque qui modifie sa vision première des films. Et pour moi, il est très intéressant, déjà parce qu'il n'est pas américain de base, hein, c'est un immigré, il est néerlandais. Et en fait, il a eu toute une époque néerlandaise, et il faut savoir qu'à l'époque où il est en charge de la réal de Robocop, donc 1987, il ne parle pas encore très bien l'anglais, il vient limite tout juste de débarquer aux États-Unis, donc c'est pas le Paul Verhoeven qu'on connaît. Donc il doit encore faire ses armes à cette époque-là. Quel a été, Hélène, ton rapport avec Robocop? Est-ce que tu l'as découvert pour cette émission, ce qui peut arriver, ou est-ce que tu connaissais déjà un peu avant?
Je l'ai complètement découvert pour cette émission. Moi, Verhoeven, je l'ai découvert avec Total Recall, comme énormément de monde. J'ai vu ensuite Basic Instinct, Showgirls. J'ai pas vu ces deux derniers, Elle et Benedetta, mais voilà, je connais vraiment surtout la période de ces années 90, son triptyque, même sa tétralogie gagnante. Total Recall, Basic Instinct, Showgirls, Starship Troopers, respectivement sortis en 90, 92, 95 et 97. Et donc, j'ai découvert Robocop pour cet épisode, puisque les films de Cyborg, en fait, ce ne sont pas tout à fait les films vers lesquels je me porte naturellement, en fait. Donc, je me suis dit, quand tu l'as proposé, waouh, à quoi je vais me frotter, parce que tu m'as dit que c'était un des héros de ton enfance. Alors, je me suis dit, bon, je vais faire un effort, on est ici pour parler du masque, il est évident que là, il y a beaucoup de choses à dire. Et en fait, je m'apprêtais à me trouver devant un simple film de cyborg slash super-héros slash action des années 80. Et en fait, j'avais tout ce qui était Terminator et Total Recall en fait en tête, parce que c'est la période, quoi. Et en fait, je me suis trouvé face à quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus cynique et de beaucoup plus satirique que ceux que je m'imaginais au départ. J'ai retrouvé en fait le Verhoeven que j'apprécie, celui qui critique de manière très 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 affirmé et avec beaucoup d'action. J'avais très honnêtement peur de m'ennuyer, ce qui n'a pas du tout été le cas. Donc c'est une très très belle surprise.
Ah bah c'est parfait, je suis heureux de ce retour. Juste, tu as cité Showgirl, bah voilà, voyez-vous, ça c'est un exemple typique du cinéma de Verhoeven qui a été maudit au départ. Il faut savoir que Showgirl a été conspué, il a même reçu une récompense au Razzie, ce qui est une très mauvaise chose pour les films. Il faut savoir que Paul Verhoeven a joué le jeu jusqu'au bout. Il est allé chercher en personne sa récompense au Razzie. Il a vraiment joué le jeu. Et Showgirls fait partie typiquement de ces films qui ont été redécouverts et redorés par la suite, en fait. Et Showgirls est un film incroyable, vraiment. Accrochez-vous un peu parce que c'est super violent. Il y a notamment des scènes de viol qui ne sont pas du tout ellipsées. On est dans le milieu de la prostitution et de la... Voilà, des maisons closes et de tous les services sexualisés que peuvent et surtout doivent malheureusement rendre certaines filles dans une certaine vision de l'Amérique. Et c'est hyper, hyper coup de poing, hyper prenant, et c'est vraiment typique de ce genre de films qui ont connu une gloire après coup, en fait. Donc c'est typique de la façon de faire de Verhoeven. Et si on en vient à Robocop, donc tout ce que tu as dit est hyper intéressant parce que du coup, effectivement, c'est un... Alors, ça reste un vieux film maintenant, ça reste un film typique, voilà, de la fin des années 80. Par contre, il faut un peu se pencher sur l'histoire de ce film, pas l'histoire tant narrative, mais surtout sur l'histoire de sa prod. Il faut savoir qu'au scénario, on retrouve Edward Neumeyer et Michael Miner, qui sont des potes. Alors, comment tout ça a commencé? Quand on considère un film, il faut considérer l'époque dans laquelle il naît, d'accord? Et il s'avère qu'en 1987, au moment de la création du projet, Neumeyer a ses bureaux littéralement à côté du tournage d'un autre petit film, si je puis dire, qui s'appelle Blade Runner par Ridley Scott. Et en fait, il va se retrouver sur le plateau à rendre deux, trois petits coups de main sur le tournage donc de Scott. Et progressivement, va naître en lui ce désir, cette idée de faire un film avec un super flic cyborg. On m'accordera quand même que si Robocop n'avait pas eu le succès qu'on lui connaît, avec les gens qu'on lui connaît, le titre serait quand même super nanar. Hein. Robocop, ça reste, d'ailleurs il a été parodié hein, de nombreuses fois, mais Robocop reste quand même un titre qui fait penser limite à un film du festival des maudits, du maudit festival, parce que ouais, c'est vraiment très kitschoun dans le titre, et on ne s'attendait pas du tout à ce que ça devienne le monument pop culture que l'on connaît aujourd'hui. Mais voilà, il faut voir que effectivement, on est dans la mouvance Blade Runner, Ridley Scott pour la SF. Donc du coup l'idée va faire son chemin et il faut savoir qu'en termes de réalisation, ça a été une sacrée surprise puisque le film a fait une recette de 53,4 millions de dollars pour un budget de 15 millions. Donc il a été rentable. Il a été très rentable et c'est la raison pour laquelle des suites se sont mises rapidement au chantier avec un succès beaucoup plus mitigé parce que on a surfé sur la vague et Verhoeven n'était plus là. À un moment donné, Peter Weller n'était même plus là pour le troisième film. Ce n'est plus lui qui joue Robocop. Et justement, au niveau de la réalisation, il faut savoir qu'il y a plusieurs réalisateurs qui ont été pressentis. Au départ, même Paul Verhoeven ne voulait pas le faire. Il a refusé deux fois. On a notamment pressenti David Cronenberg pour réaliser. Alors, en tant que fasciné par Cronenberg et son cinéma, surtout son ancien cinéma, je parle de l'époque, notamment de l'époque La Mouche, de l'époque Crash, de l'époque Vidéodrome, j'aurais vraiment aimé que dans un univers parallèle, il y ait une version de Robocop réalisée par Cronenberg. Ça aurait pu être hyper intéressant. Et puis pour ce qui est de l'acteur, Rutger Hauer a failli être dans le costume, dans l'armure de Robocop. Pareil, j'ai une affection incroyable pour Rutger Hauer. Mon film préféré avec lui étant bien évidemment le magistral et l'angoissant The Hitcher. Si vous n'avez pas vu, coupez tout de suite ce podcast et allez voir The Hitcher, la version originale bien sûr. Donc voilà, ça aurait été un grand moment de cinéma aussi, j'en suis sûr. Et en fait, il faut savoir que Peter Weller a été casté notamment pour son menton, puisque en fait, le problème de l'acteur qui devait incarner Robocop, c'est qu'il devait être suffisamment fin pour rentrer dans l'armure massive de Robocop, sinon ça aurait fait un peu Bibendum Michelin. C'est pour ça notamment que Arnold Schwarzenegger, qui sortait de Terminator, également produit par Orion Pictures, qui va produire Robocop, a été pressenti, mais il a été écarté parce que c'est Schwarzy, quoi. Schwarzy, c'est une masse, et dans l'armure de Robocop, ça aurait fait un peu Bibendum Michelin. Donc on a mis 6 mois à caster Peter Weller parce que ça a été un peu la croix et la bannière pour trouver le rôle. Mais et puis ce qui repoussait aussi des acteurs, c'est que quand Robocop est dans son armure, on ne lui voit littéralement que le menton, justement. Donc en fait, l'acteur était vraiment dans le costume et on voyait finalement très peu le visage de l'acteur. Mais Peter Weller a fini par accepter. Il faut savoir que le tournage s'est bien passé. Il y avait une bonne ambiance sur le plateau. Par contre, Peter Weller a failli jeter l'éponge, tout simplement parce que c'était un enfer d'être dans le costume de Robocop. C'est un costume, et ça se voit à l'écran, qui est foutrement inconfortable. Petite anecdote inutile et donc indispensable, sachez que Peter Weller perdait par jour de tournage 1,4 kg de masse, de poids, 1,4 kg en termes de sueur. Voilà, c'est vous dire la croix et la bannière que ça a été de porter ce costume. Il faut savoir qu'à la base, il s'est entraîné dans un costume de footballeur américain pour les déplacements. Je ne peux que vous conseiller la vidéo par Exidium Film, qui est sortie en novembre 2023, sur l'héritage de la saga Robocop, qui est très très classe. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Peter Weller s'est beaucoup entraîné au déplacement. Et le truc, c'était que au départ, il n'arrivait pas à trouver une démarche suffisamment aisée pour se déplacer. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu le film, et rappelez-vous, pour celles et ceux qui l'ont vu, effectivement, on a vraiment cette démarche robotique saccadée. Et il a été conseillé par un spécialiste du mime, hein, tout simplement, Peter Weller. Je vais vous retrouver son nom d'ailleurs quand mes notes voudront bien me laisser faire. Mais effectivement, voilà, Moni Hakim, mime et chorégraphe. Donc, et finalement, on retrouve dans les mouvements de Robocop quelque chose de qui fait penser au mime en fait quand on regarde bien. Et à la base, en fait, vu que Peter Weller ne s'en sortait pas du tout, on lui a enlevé des pièces d'armure et on l'a fait jouer de manière extrêmement saccadée. Il s'est entraîné pendant un week-end dans un entrepôt. C'est quelque chose hein, de tourner des films comme ça, mine de rien. Il y a un investissement des acteurs qui est quand même très très fort. Donc voilà, en termes de costume, l'armure pataude de Robocop, ça signifie quelque chose vraiment quoi. C'est vraiment pas un héros agile. C'est un héros relativement maigre dans sa dans physique, mais c'est vraiment pas un héros sexy Robocop. Il n'est pas fait pour être sexy. Et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est que Verhoeven arrive à le rendre fascinant alors qu'il n'est pas du tout charismatique dans le sens érotique du terme. Enfin, si je puis dire. Enfin, tu comprends ce que je veux dire, je pense.
Oui.
Voilà. Au pire,
disons qu'il a pas le charme. Il n'a pas le charme qu'on attribuera par la suite à d'autres super-héros, en fait, concrètement. Il n'a pas le charme qu'on peut porter à Schwarzenegger dans Terminator, en grande partie parce que la quasi-totalité de son corps est effectivement recouverte par une armure et on ne peut voir finalement que sa bouche et son menton. Son menton dit parfait par les directeurs de casting. Et en fait, c'est pas un objet qu'on peut considérer comme sexuel. En fait, c'est un costume, c'est une armure. Et son but premier est de protéger la personne qui le porte, et de protéger l'être qui le porte. Et fait partie du personnage de Murphy, de celui qu'on appelle plus Murphy pendant une grande partie du film. Et elle fait partie de lui. Et son but est littéralement de tuer. Et de résister aux assauts qui pourraient lui être rendus en conséquence. Donc, on n'est pas du tout dans une optique sexualisante, ce qui peut paraître étonnant de la part de Verhoeven, j'en conviens, mais on n'est pas du tout dans cette optique érotique, en tout cas pas en premier lieu. On est vraiment dans une machine qui est montée pour tuer et sur un cobaye qui est baladé dans le décor et à travers la mission pour tuer. C'est un véhicule qu'on a monté de toutes pièces, un peu comme un personnage de jeu vidéo, pour survivre le plus longtemps possible face aux assauts, quoi.
Complètement. Et d'ailleurs, ce caractère érotique, déjà, est quasiment absent du film, et c'est voulu. Et pour un homme, justement, qui a réalisé Showgirl, effectivement, comme tu le disais, c'est fort. Mais c'est surtout, par rapport à Lewis, au sergent Lewis, donc, qui est sa collègue femme. Au départ, il y avait une histoire d'amour qui était pressentie et en fait, Verhoeven a repoussé l'idée volontairement. Et il y a effectivement quasiment rien d'érotique dans la relation entre les deux, déjà parce que elle a un comportement plutôt masculin, dirons-nous. Elle a dû pour le tournage se couper les cheveux. Elle fait des scènes de bagarre au début du film. Elle maîtrise quasiment elle toute seule un suspect récalcitrant. Et effectivement, le côté amoureux qu'on pourrait voir dans ce genre de film, le côté amoureux qu'on pourrait voir dans ce genre de film est totalement absent. Et je pense que c'est une belle prouesse de la part de Verhoeven d'avoir cassé un petit peu ce cliché. Cliché qui était déjà cassé. Si on compare avec Terminator, il y a quand même une portée homosexuelle et érotique assez forte dans Terminator. Hein. Je rappelle que Terminator, c'est quand même des types qui se baladent dans le temps en première instance complètement à poil. Voilà. Mais c'est surtout que de la même façon qu'on ne peut pas imaginer une relation sexualisée entre Sarah Connor et le Terminator, et on comprend largement pourquoi, parce qu'il cherche à tuer tout simplement. Il n'y a pas non plus cet écueil que j'aurais trouvé dommage d'une relation sexualisée, érotique entre Lewis et Murphy. Et du coup, Lewis réhumanise Murphy tout en restant dans le cadre de son métier, finalement, de policière. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Ce qui permet peut-être, on l'a pas fait, excusez-nous, parce qu'on est parti, on est parti bien en tête, mais ce qui permet peut-être de rappeler l'histoire de base de Robocop, donc qui est aujourd'hui très classique, hein, tout simplement Donc ça se passe à Détroit, et on parlera un peu de l'histoire de la vraie Détroit, qui est intéressante à connaître pour ce film. Donc Détroit, dans un futur proche, donc futur proche, ça veut dire les années 90, tel que voit le film, on va dire, où effectivement à Détroit, la criminalité et la criminalité est en hausse et l'espérance de vie en baisse, ce qui permettra aussi de parler de l'humour des pubs et des spots pour proposer le rallongement de l'espérance de vie alors que tout le monde se fait buter, et notamment des flics. Et justement, la criminalité gangrène Détroit, et donc l'OCP, un immense complexe industriel qui possède les forces de police, se met en tête de créer Delta City, la ville du futur, la ville du chronique, la ville débarrassée de la criminalité. Et ils ont dans l'idée de créer une police plus efficace, et police plus efficace, ça veut dire une police robot. Il y a une première expérience avec le D-209, une énorme machine, qui va se révéler désastreuse, et cette scène est à mourir de rire, elle est très gore, parce qu'il y a un type qui se fait buter en pleine démonstration avec force éclaboussures de sang, et sa mort est complètement ellipsée par le fait que la démonstration a foiré, mais elle a foiré d'un point de vue industriel et commercial. On se fout complètement du pauvre type qui s'est fait abattre littéralement en charpie devant tout le monde. Et ça, je trouve ça très très drôle, c'est typique de Verhoeven et de son cynisme absolu. Et donc justement, l'idée, c'est de créer une autre force de police, et il se trouve que Murphy va tomber en devoir, il va se faire littéralement démembrer dans une scène également assez gore. C'est pas un film tout public, hein, Robocop, hein, je vous le dis. Il y a des passages un peu gore, et donc il va se faire littéralement démembrer par un groupe de criminels. Hein.
Ouais, scène qui est censurée au départ dans la première version.
Au départ, elle est censurée effectivement, mais la version directe au skirt est édifiante et intéressante pour ça notamment. Donc il va se faire démembrer par Clarence Boddicker, le grand méchant du film, et sa bande. Et en fait, il est déclaré cliniquement mort, légalement mort, ce qui fait que l'OCP va récupérer son corps et ce qui lui reste de conscience pour en faire un produit, un pur produit industriel, et pour en faire le Robocop. Donc ils vont foutre ce qui reste de Murphy dans l'armure, et ils vont le robotiser, le cyborgiser complètement à leur service. Ce qui permet de voir que les flics dans Robocop, et surtout Robocop, en fait, Murphy débarque dans une police de proximité. On sent vraiment que c'est la police de quartier qui cherche à faire son métier, à respecter la loi. Robocop, lui, est vu comme une espèce de Judge Dredd encore amélioré, Judge Dredd étant un héros de comics, pareil, qui rend la justice de manière complètement glaciale. D'ailleurs, l'influence des films comme Dirty Harry, Mad Max est pas anodine pour Robocop, hein, on la sent. Et c'est surtout que Robocop est au service non pas d'une idéologie, mais d'une industrie. Robocop n'est une force de police efficace que parce que c'est une industrie qui pilote. C'est pas, il n'a rien d'humaniste, Robocop, rien du tout. Et je dis même pas ça par jeu de mots, par le fait que c'est un cyborg. Je veux dire, l'OCP est tout sauf humaniste. L'OCP cherche le profit et l'efficacité, c'est tout. On se contrefout de savoir si Murphy est heureux, malheureux, c'est un produit, c'est tout. Et justement, tout le film va tourner autour de ça. C'est d'ailleurs ce qui va motiver Verhoeven à accepter finalement le projet. C'est que Murphy va finir comme une créature de Frankenstein 2.0, va finir par échapper à ses créateurs. Et il y a une scène, notamment dans le scénario, dans le script, qui va motiver Verhoeven à faire ce film. C'est la scène où Robocop Murphy, donc quand il est dans l'armure, va retourner chez lui, alors que du coup il désobéit à sa directive, il prend la voiture pour aller chez lui au lieu d'aller en mission. Et il y a toute cette scène assez lente, assez pesante, dans la maison, où Murphy essaye de reconnecter avec ses anciens souvenirs, avec les souvenirs qu'il a de sa femme et de son fils. Et c'est cette scène-là qui va motiver Verhoeven à faire ce film, parce qu'il se dit qu'il est peut-être un peu plus profond que ce qu'il estimait. Et je pense que c'est le cas justement, parce que toute l'histoire de Robocop part du fait que c'est l'histoire d'un mec qui a été foutu dans une machine et qui justement cherche à récupérer son identité physique, son identité psychologique, son identité humaine tout simplement. Et c'est pour ça que le nom d'Alex Murphy va finir par être très important. C'est d'ailleurs la toute dernière réplique du film qui pour moi résume tout l'esprit du film de Verhoeven. Donc en gros, il vient d'abattre le grand méchant et on lui dit « Quel est votre nom ?» Et il va répondre « Murphy ». Voilà, Alex Murphy, tout simplement. Et je trouve que dans la façon de faire de Verhoeven, c'est très classe. Et je crois que ça participe au succès et surtout à l'intemporalité de Robocop. Parce que ce que dit en sous-texte le film, c'est encore très actuel aujourd'hui. Sans vouloir faire de politique forcément ici, on parle beaucoup de la police aujourd'hui, on parle beaucoup du manque de moyens qu'ils ont, on parle beaucoup de la violence de la police. Alors, pas forcément chez nous, hein, mais ne serait-ce qu'aux États-Unis déjà. On parle énormément des forces de police, du manque de moyens, de la difficulté, des préjugés qu'il peut y avoir, des préjugés raciaux d'un côté comme de l'autre. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses autour de ça. Et le film, de ce côté-là, je trouve, n'a pas vieilli. Après, je ne sais pas ce que tu en penses.
Qu'il n'a pas vieilli de quel côté ?
Il a pas vieilli dans le discours qu'il propose et dans la vision des forces de police. Est-ce qu'il faut être un flic froid, protocolaire, qui suit les directives, et comment on humanise un peu ce genre de flic qui met la loi en protocole absolu et c'est tout en fait.
Disons que c'est délicat. Dire qu'il n'a pas vieilli, je ne suis pas d'accord. Après, ça dépend complètement du contexte dans lequel on se place. Se placer sur un contexte de critique policière dans les années 80, ce n'est pas du tout la même chose que de se placer dans un contexte de critique policière dans les années 2020. Je trouve que il y aura toujours une critique de la police et qui est super intéressante à mettre en place. Je trouve que dans les années 1980... La guerre froide est pas loin. Il y a encore une résurgence du nazisme qui est quand même assez poussée et qui n'est pas indifférente. Enfin, qui n'est pas. C'est pas indifférent le mot. Je vais chercher mon mot. Qui n'est pas étrangère, voilà. Qui n'est pas étrangère au fait que Peter Wheeler a ce physique-là. Et que ce soit un policier, tu vois. Il y a un côté extrêmement, extrêmement machiniste qui n'est pas sans rappeler le côté dont l'inspiration est claire, hein, qui est celui du Metropolis de Fritz Lang, qui a 60 ans au moment de la réalisation du film. Et ce côté effectivement très, très, très machinique qui rappelle bah, toutes les forces ennemies en fait, de l'Allemagne, qu'il s'agisse de la force allemande ou qu'il s'agisse de la force russe, pour évoquer notamment Eisenstein et le cuirassé Potemkin. On imagine très clairement qu'il y a une référence à ces soldats dans le cuirassé Potemkin qui avancent sans se soucier des personnes qu'ils tuent en fait, dans cette grande scène des escaliers qui avance. On voit ce Robocop quand il avance, notamment enfin, le premier robot qui tue, en fait, cette grande masse qui arrive, qui se place dans ce bureau où il y a tous ces hommes en costume, qui se pose là comme une espèce de sculpture qui n'a rien à faire là, comme si on l'avait arrachée d'un quelconque entrepôt pour la mettre là, comme si elle n'avait rien à y faire, et elle paraît immense, le décor paraît trop petit pour elle. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans la plupart des films en fait, qu'on a traités là récemment, on y reviendra, mais il y a encore y a ce moment où on expose du coup la puissance, la nouvelle puissance, le nouvel espoir, qui se retrouve en fait à être encore une fois une erreur scientifique et qui prend soudainement énormément de place, qui était la chose exposée sur laquelle on avait de la domination, et qui soudainement domine à son tour. L'erreur domine à son tour. Que la police soit une erreur, je pense que c'est un petit peu présomptueux. Après, ce côté machinique, évidemment, n'a pas vieilli. Cette perception de la police, évidemment, n'a pas vieilli. Cette perception de la force armée, en fait, qui va exécuter un protocole, effectivement, n'a pas vieilli. Disons que c'est toujours la même, qu'on la nourrit toujours. Et l'histoire de la police, des bavures policières, le prouve. Après, c'est clairement exagéré. J'irai pas jusqu'à dire que c'est nanardesque. C'est vraiment très années 80. Très clairement, Cronenberg, s'il a été pressenti pour réaliser le film, ce n'est pas, ça n'y est pas étranger. Et je pense qu'il y a une grosse partie pour Verhoeven dans la, les choix de création du film qui consiste à s'écarter de ce qu'il avait fait jusqu'à présent, à la fois géographiquement et en termes de choix artistiques. Verhoeven, pour rappel, quand il arrive aux États-Unis, c'est grâce à Spielberg. Et en fait, il vient de terminer de réaliser La chair et le sang, qui est donc une espèce de fresque médiévale qui ne lui plaît pas tant que ça. Il en est, il en est vraiment déçu, en fait. Et là, on passe du coup de la... De l'histoire médiévale à quelque chose de rétro-futuriste qui va lui permettre de faire un grand écart qui est aussi géographique, puisqu'effectivement, il quitte les Pays-Bas pour les États-Unis sous le conseil, les conseils répétés de Spielberg, qui va lui permettre de mettre un premier pied donc, dans l'industrie en réalisant du coup un épisode de série. Un épisode de série. Et je pense que tout ce qu'il a tenté dans Robocop, c'était un peu une histoire de dernière chance. Parce que clairement, quand il est arrivé aux États-Unis, il n'était pas très sûr de lui. Et il s'est dit avec sa femme, on voit si ça marche. Et si ça ne marche pas, on repart. Et il s'est avéré que c'était un premier succès surprise dans les États-Unis. En grande partie parce que je pense qu'il ne s'est pas donné de limites. Et le film, encore aujourd'hui, en termes d'effets spéciaux, est quand même... C'est là où je trouve qu'effectivement, il n'a pas vieilli. En termes d'effets spéciaux, la scène de la mort de Murphy reste extrêmement impressionnante. Et finalement, le plan qui a peut-être le plus mal vieilli, c'est le plan de fin de la chute du grand méchant sur cette espèce de fond vert absolument dégueulasse. Qui est là pour le coup est extrêmement nanardesque et qui fait très donc Die-Hard avant l'heure. Mais je suis pas d'accord dans le sens où la perception de la police, on pourrait y passer des heures, ça c'est pas la même, c'est pas la même. Verhoeven a une perception particulière de la police, et c'est quelque chose qui le montrera de manière beaucoup plus prégnante, je trouve, dans Total Recall ou dans Basic Instinct. Et c'est peut-être, si on veut, les premières pierres de cette critique-là qui se poursuivra ensuite sur un système de critique de l'autorité, des normes établies qui va exploser dans Starship Troopers et qui va se poursuivre dans un film comme par exemple Benedetta qui est son dernier film en date. Donc est-ce qu'il a bien vieilli? Il a vieilli bien, je ne sais pas.
Après, alors merci beaucoup, c'est hyper intéressant et je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce que je voulais dire auparavant, c'était qu'en fait je trouvais ça rigolo et très révélateur, comme on l'a dit au début, que Verhoeven était perçu, suivant les publics et les époques, à la fois comme un gros fasciste et à la fois comme un libertarien. Pour moi, c'est révélateur surtout dans Robocop. En fait, ce que je voulais dire, c'était que pour moi, dans Robocop, Verhoeven a une vision de la police à deux vitesses. C'est-à-dire tu as vraiment les petits flics de quartier, de proximité, qui sont tous les collègues de Murphy, et tu as la machine qui est là pour répondre à un protocole. D'ailleurs, l'une des directives de Robocop, c'est la fameuse directive 4 qui l'empêche d'attaquer, d'arrêter, qui l'empêche d'agir contre un membre de l'OCP. Et il se trouve que le grand méchant du film, à part Clarence Bolliker, c'est la tête pensante de l'OCP. Et moi, ce qui me fait rire énormément, et là, on ne dira pas que ce n'est pas complètement critique et complètement voulu de la part de Verhoeven, c'est que justement, Robocop se débarrasse du grand méchant parce qu'on l'a viré. Murphy se fait virer, et à partir du moment où on le vire, sa directive 4 se désactive, et donc il peut tirer sur un membre de l'OCP puisqu'il ne fait plus partie de la maison. Voilà. Et je trouve cette scène très drôle. Mais voilà, ce que je voulais dire, et ce que je te remercie d'avoir apporté toutes les précisions, et je n'ai peut-être pas été assez précis, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, il y avait vraiment ces deux visions de la police qui se rejoignaient dans Robocop. Et effectivement, je suis d'accord avec toi pour dire que le discours là a peut-être vieilli, parce qu'effectivement, effectivement, on ne peut pas regarder la police de 87 comme étant la police d'aujourd'hui. Mais il y a toujours eu cette réflexion sur l'ordre établi et sur la façon de faire respecter l'ordre. Voilà. Effectivement.
Ça, je suis d'accord.
Ouais, voilà. Je voulais revenir sur, ou venir plutôt, à la vision de Détroit. C'est très important dans le film parce que justement, toute la logique du film, c'est de dire que Détroit est gangréné par la misère, le crime, la pauvreté, tout simplement.
D'ailleurs, le film n'est pas filmé à Détroit. Il est filmé à Dallas, pour la petite histoire, parce que Verhoeven considérait que c'était l'architecture la plus futuriste du monde.
Et c'est clair, il n'a pas tort. Hein, quand on voit des photos de Dallas, notamment à cette époque, effectivement, il y a des bâtiments, on dirait un peu les vaisseaux spatiaux. C'est assez fun. Et donc, il y a un côté très, très steampunk, très, très sale, en fait, dans les bâtiments qui sont filmés. Et il faut effectivement voir l'histoire de Détroit, de la vraie Détroit. Elle a été surnommée Motor City à une époque, tout simplement parce que l'industrie automobile était hyper présente dans cette ville-là. Et d'ailleurs, là où Verhoeven me fait rire, c'est qu'il y a des spams publicitaires qui émaillent Robocop. La publicité est très présente dans Robocop. Et notamment, il y a une publicité pour une voiture qui s'appelle la Sux. Donc, est-ce que j'ai besoin de vous traduire vous traduire littéralement? Donc, c'est très drôle. Ils se moquent de l'industrie automobile. Mais voilà, c'est une industrie justement qui a été très forte. Et il faut savoir qu'à partir de 1949, aux États-Unis, on met une énorme politique de réorganisation de l'urbanisme, de réurbanisation. On essaye de moderniser les immeubles à partir de 1949. Mais le truc, c'est qu'il faut savoir qu'à cette époque-là encore, le racisme est très très présent. On considère que la présence de Noirs américains fait baisser la valeur du quartier parce que les riches sont des Blancs, hein, tout simplement. Sauf que la force ouvrière industrielle, elle vient d'où? Eh bien, des Noirs américains, en grande majorité. Donc ça va créer de gros problèmes parce que effectivement, plus on va mettre de côté une population, plus on va brimer une population, lui retirer des privilèges, et bien évidemment plus ça va faire cocotte minute. Et il va y avoir un énorme crash industriel et économique qui va découler en partie de cette situation à Détroit. Donc ce n'est pas anodin. Puis les routes sont extrêmement présentes. Et celles et ceux qui bâtissent les routes, c'est également la main-d'œuvre noire américaine en majorité. Et justement, c'est intéressant de se dire que le Détroit de Verhoeven, dans Robocop, fait un parallèle avec cette situation socio-économique que vit la vraie Détroit. Pour moi, c'est assez significatif qu'il ait choisi, justement. Et puis, il ne faut pas oublier, comme tu l'as rappelé, comme tu l'as très bien rappelé, Hélène, que c'est un immigré lui-même. Les États-Unis ne sont pas sa terre d'accueil, il ne se sent pas encore chez lui aux États-Unis, il n'est pas encore très à l'aise avec l'anglais d'ailleurs à cette époque. Il faut savoir que tu parlais de son épouse et tu as bien fait, c'est son épouse qui l'a convaincu d'accepter Robocop. Et il faut savoir que sur le tournage, il n'était pas super sociable, Verhoeven, comme on peut le comprendre dans ces conditions, mais c'est surtout qu'il était sous anxiolytique. Donc il allait pas très bien au moment du tournage, voilà. Et malgré tout le tournage s'est bien passé avec les résultats que l'on sait. Donc voilà, tout ça pour moi n'est pas anodin, et il faut se rappeler que un film est toujours, enfin pour moi, hein, j'ai pas fait d'études cinématographiques, mais je trouve qu'un film est toujours à mettre en relation avec le contexte dans lequel il émerge, historique, politique, tout ce que vous voulez, et ça me paraît super intéressant. Après, je sais pas ce que t'en penses, Hélène, mais
qu'un film est toujours à mettre en contexte avec, avec son, l'histoire de son époque.
J'enfonce peut-être des portes ouvertes.
C'est plus compliqué que ça. Un film de merde reste un film de merde.
Je ne dis pas. Il y a des films très contextualisés qui sont merdiques.
Je pense que... Alors, ça dépend ce que tu entends par contexte. Contexte historique, je ne pense pas. Parce que la plupart du temps, on se sert beaucoup, justement, de cette porte ouverte pour dire « Oui, dans ce contexte, il y a ça, il y a ça, il y a ça. » Et donc, ça justifie pour beaucoup quelque chose. Non, déjà. Là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il est important de replacer le film dans le contexte de la carrière du réalisateur. Verhoeven, il est pas très sociable, il est sous anxiolytique, machin, machin, ok. Il en est à son 8e film quand même, donc c'est pas un réalisateur junior. C'est quelqu'un qui est plutôt chevronné, qui a l'habitude de tourner, qui sait comment ça fonctionne et qui a des choix artistiques bien affirmés quand même déjà. Et je pense que il s'est servi sans conteste du fait qu'il n'était pas là chez lui pour y aller franco, en fait. Les moyens des États-Unis, surtout dans les années 1980, c'est pas les moyens des Pays-Bas. On est dans une grande période qui est celle des années 1980, qui est la période du slasher. Donc clairement, ici, les films de science-fiction, ça n'avait pas spécialement la cote, même s'il y a de très très bons films de science-fiction qui sont sortis pendant les années 80, bien entendu. Mais ici, je pense qu'on est sur une phase de test qui a une valeur, là, pour le coup, presque scientifique. Il y a une vibe horrifique qui est évidente. Je pense notamment à la scène du personnage dont le nom m'échappe, la course-poursuite finale. Il y a un des méchants qui poursuit Robocop et qui fonce dans un baril de déchets toxiques. Et ça fait une inondation dans la rue, et le personnage en ressort comme une espèce de blob qui est en train de se décomposer, qui pousse un gémissement absolument horrible, et cette scène est terrifiante. Hein. Moi, je l'ai vue pour la première fois, fort heureusement que je l'ai vue à l'âge que j'ai aujourd'hui, parce qu'elle est extrêmement terrifiante, elle est très bien réalisée, et elle fait juste le bon temps qu'il faut. C'est-à-dire juste le temps qu'il faut pour être surprenante, pour être dégoûtante, sans être forcément complaisante ou donner le temps de s'apesantir sur le drame du moment. Et il y a des moments presque horrifiques qui n'ont pas le temps d'être drôles. Et c'est en ce cas... où je ne suis pas d'accord avec toi, où tu dis que c'est de temps en temps c'est nanardesque, je ne trouve pas, pour le coup. Même s'il y a des moments de carton-pâte assez évidents, je trouve que le rythme du montage de Verhoeven, et c'est une des forces, je trouve, des choix artistiques de ce réalisateur, le rythme fait que chaque scène est à sa place et qu'on ne pourrait pas la déplacer. C'est pour ça que, autant je peux comprendre que la mort de Murphy ait été censurée, autant... quand elle est là, elle ajoute une dimension qui est bien au-delà de l'horrifique. On a beaucoup dit que c'était un film extrêmement violent. Non. Pour l'époque, c'est non. On est dans les années 1980. C'est la décennie du slasher. Les gens se font démembrer partout. Les gens se font violer partout. Les gens se font arracher leurs entrailles absolument partout. C'est un film, là, pour le coup... Tu parles de retracer dans son contexte, de son époque. Après, est-ce que ça en fait un bon film ? On n'a pas le temps de épiloguer sur le sujet pour dire que c'est un bon film. Il n'a rien révolutionné, pour le coup, je trouve. Par contre, il a un sens du rythme et de l'équilibre, de l'harmonie entre la satire, l'horrifique, le côté qui parfois est tellement exagéré qu'il en est drôle, qui est, je trouve, super bien géré. C'est un film en soi de cyborg, c'est-à-dire d'être vivant qui a reçu des greffes d'éléments mécaniques, sans avoir le côté rétro-futuriste, je trouve, que peut avoir le pionnier du genre qui est Blade Runner.
C'est vrai. Juste une chose, quand j'ai dit qu'il avait des côtés nanardesque, je pensais surtout au titre. Je pensais surtout au titre Robocop qui fait penser, c'est littéralement Roboflic. Donc ça fait penser à quelque chose qui est nanardesque, mais le film lui-même ne l'est pas. Je ne vois pas Nanarland proposer une projection de Roboflic. Non, le film n'est pas nanardesque, mais effectivement, je suis tout à fait d'accord. Après, il y a des choses sur lesquelles on peut pas débattre en si peu de temps, c'est vrai. Mais il y a quand même... je pense que, comme tu le disais au départ, Verhoeven a vraiment fait le film qu'il a voulu. C'est bien, je trouve, que tu aies pointé la différence de budget entre les deux pays. On lui a quand même filé pour son... Donc il en est à son 7e film, c'est bien ça que...
C'est le 8e Robocop.
On lui a quand même filé pour son 8e film dans un pays qui n'était pas le sien, 15 millions de budget. Pour l'époque, pour lui, c'est du coup pas dégueulasse. Et je pense que c'est une grosse charge mentale à gérer. Cela dit, comme tu l'as dit aussi, c'est pas un poussin. Verhoeven, il sait travailler, il sait gérer. Simplement, je pense qu'il a eu aussi la pression de devoir conquérir un nouveau territoire en tant qu'immigré, en tant que cinéaste, en tant que. J'ai pas entendu dire qu'il était forcément fan des cyborgs avant. D'ailleurs, il n'a pas vraiment refait de film de cyborg derrière. Mais je pense qu'il a fait Robocop comme il a voulu qu'il soit, en fait. Il a eu de la pression de la part de Orion Pictures, mais globalement, je pense qu'on lui a pas mal foutu la paix au bout d'un moment quand il a proposé ses idées. Et ça, pour moi, ça influe du coup sur le film et sur la façon dont il est fait.
Oui, puis le fait d'être un pote de Spielberg, quand même, ça aide
Moi,
beaucoup,
je
je
pense que
pense.
ça ouvre des portes, ouais.
Oui, a priori.
Faudrait un jour qu'on s'intéresse à Spielberg. On fera l'émission en 4 fois parce que.
Parce que c'est long.
Mais je veux dire, l'influence de Spielberg, elle a été. Enfin, qu'on aime ou pas ses films, son influence dans le développement du nouvel Hollywood, dans l'histoire du cinéma, a été incroyable, quoi. Enfin, ce type
Oui.
est une légende vivante encore. Enfin, voilà, c'est assez fascinant. Voilà, petite parenthèse, Spielbergien. Voilà. Est-ce qu'il y a des sujets que tu voulais en particulier aborder avec Robocop?
Eh bien, je voulais revenir effectivement sur ce sujet qui me plaît beaucoup. Je vais le rebalancer parce que c'est obligatoire, qui est deux choses. Deux choses. Le côté effectivement du traitement du masque, hein, parce que on est quand même là pour ça. C'est finalement quelque chose que l'on voit assez peu dans le film. Là où j'ai trouvé intéressant de voir la perspective du masque, c'est que c'est assez rare à ce moment-là dans l'histoire du cinéma. Mais il faudrait faire une étude un petit peu plus précise. Mais il me semble que c'est quand même assez rare, en tout cas dans la science-fiction, de placer le spectateur ou la spectatrice à l'intérieur de la tête du personnage et de voir ce qui se passe à travers ses yeux. Et même si c'est aujourd'hui du vu et revu et quelque chose de simple, mettre une espèce de filtre un peu liseré sur l'œil de la caméra pour faire comprendre en fait qu'on est à l'intérieur de la tête d'un robot, c'est simple. Mais ça marche. Et en fait, ce qui se passe pour moi, c'est que ce masque n'a pas, il n'a pas la portée presque magique, en fait, des fois, puisqu'on a beaucoup parlé de super-héros, qu'il y a dans les autres films qu'on a traités, comme par exemple The Mask ou encore Spider-Man. Il n'y a pas de recherche de l'identité ou forcément de dualité pour le personnage de Murphy, comme il peut y avoir pour les autres personnages masqués. Les rares moments où on ne le voit pas masqué, il ne change pas forcément du tout au tout. Il y a un passage, une scène extrêmement intéressante où il est avec sa coéquipière, où elle lui réapprend entre guillemets à tirer correctement, à viser. Et à ce moment-là, effectivement, il n'a pas son masque et on pourrait croire que c'est quelque chose d'un peu plus humain ou quoi. Mais là, effectivement, il y a une intervention de l'humain auprès d'une machine, ce qui, dans un contexte qui est le nôtre aujourd'hui en 2024, avec toute la trouille qu'on a par rapport à l'intelligence artificielle, notamment alors que OpenAI a sorti une intelligence qui permet de produire des vidéos à partir d'un simple morceau de texte, est très prégnante. Petite parenthèse que je referme, le masque ici est moins important pour le personnage que pour la caméra, puisque en fait, ce qu'on va masquer littéralement, ce qu'on va filtrer littéralement, c'est la vision de l'œil de la caméra. C'est un filtre qu'on va poser sur une machine. Et pendant ces quelques. C'est un peu téléphoné ce que je dis, hein, mais je pense qu'il faut le pointer. On masque une machine, quoi de mieux finalement pour exprimer le ressenti, entre guillemets, d'un robot qu'une machine qui est la caméra. Quoi de mieux pour exprimer une production humaine? Parce que cette machine qui a été construite, le robot qui a été construit, c'est un cadavre qu'on a récupéré pour faire une machine, qu'une caméra qui est tenue par un être humain. Tu vois? Et il y en a assez peu, des séquences comme ça. Il y en a juste assez, en fait, pour faire comprendre que voilà, là, tu es à l'intérieur de la tête du robot. C'est quelque chose qu'on voit assez peu, qui fait très FPS par la suite. C'est rare et c'est quelque chose, encore une fois, qui vient de... Enfin, qui vient, qui sera récupéré par la suite dans l'horrifique. C'est cette caméra qui est filtrée, c'est la caméra des films d'horreur filmés en caméra à l'épaule.
Bien sûr, de type Projet Blair Witch, pour ne citer que celui-là. Mais ce que je trouve quand même super intéressant et super révélateur en termes de cinéma, parce que finalement, si tu y réfléchis bien, pourquoi, à mon sens, le cinéma de Cronenberg, ou du moins une partie du cinéma de Cronenberg est aussi intéressant, c'est parce que Cronenberg est fasciné, on pourrait presque dire obsédé par le corps. Le corps et sa destruction. Il y a des passages assez hard dans Cronenberg là-dessus. Hein. Si vous n'avez pas vu La Mouche, notamment, les séquences de métamorphose, parce qu'il a quand même réussi à rendre Jeff Goldblum moche, ce qui est un exploit. J'adore le physique de Goldblum. Petite parenthèse. Donc, le cinéma, c'est quoi, sinon, en grande partie, pas uniquement justement, mais en grande partie la présence du corps à l'écran. Et comme on vous l'a dit au début, la plupart des acteurs qui ont été pressentis avant Peter Weller pour jouer Robocop ont refusé. Pourquoi ? Parce qu'on ne leur voyait pas le visage. C'est quand même le premier des films qu'on a traité jusque-là, on n'a fait que 4 certes, mais quand même, où le masque, justement, n'est pas expressif. Robocop n'a aucune expression faciale. Alors, vous allez me dire Spider-Man non plus, mais Spider-Man, le masque lui-même de Spider-Man, est expressif. Il y a des grands yeux, il y a quelque chose dans le masque de Spider-Man. Pour Madame Doubtfire, pareil, Madame Doubtfire, Robin Williams, c'est extrêmement expressif avec le masque. Et Jim Carrey, on a déblatéré pendant une heure sur le fait que Jim Carrey était peut-être le mec le plus plastique de toute l'histoire de la comédie. Et là, on retrouve vraiment un acteur... Peter Weller, du coup, qui a accepté que pendant une très très grande partie du film, il ne soit qu'un casque dont on voit dépasser simplement le menton. Et même quand son casque est ouvert, en fait, il a une expression faciale. Alors, avec les SFX, évidemment, mais Peter Weller a une expression faciale qui est flippante, parce que je trouve qu'on voit encore plus que c'est un robot quand il n'a pas son masque, quand il n'a pas son casque, en fait. Parce que en fait, il a le regard. Il a un regard d'une fixité incroyable et qui est la preuve d'un grand acting, me semble-t-il. Et c'est dérangeant, en fait. Hyper dérangeant quand il n'a pas son masque. Mais c'est parce que ça nous confronte aussi à la représentation du corps. Je vais juste faire une micro-parenthèse avec le Robocop de 2014, le remake, donc, qui a ses défauts. Je ne vais pas faire une grosse parenthèse dessus. Je vais juste te dire qu'il y a une scène... deux scènes assez édifiantes là-dessus. Il y a une scène dans laquelle on voit le corps de Murphy à vif, avec les poumons visibles, et surtout avec l'arrière du crâne ouvert, et donc son cerveau est complètement accessible et complètement visible à l'écran. Ça, mine de rien, c'est quelque chose qui est dérangeant, parce que ce qui est à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui nous perturbe dans le cinéma gore, par exemple, c'est qu'on a un éclatement des organes, des membres, qui est contre nature. On n'est pas censé, dans la rue, avoir porte ouverte sur le cerveau des gens, sur les organes des gens. Rappelez-vous, hein, c'était l'un des arguments qui a horrifié certains pays par rapport... tu te rappelles de cette expo chinoise, je crois, sur le corps humain, qui avait fait scandale à l'époque... Enfin, c'est pas si loin d'un que ça, hein, ça remonte à quelques années. Où justement ils exposaient des organes, des organes internes, des organes sexuels, et les corps étaient extrêmement extrêmement visuels, extrêmement percutants, parce que on voyait vraiment l'intérieur en direct, quoi. Et donc ça avait fait un tollé dans certains pays et pour certaines instances, mais je trouve que c'est quand même du coup révélateur, parce que ça révèle quelque chose de notre rapport au corps. Et justement, le thème même du cyborg, qui est un thème très important au Japon aussi, hein, je vous rappelle que les Japonais ont un rapport à la machine qui est très, très, très particulier. C'est très, très important dans leur culture. Mais justement, pour nous occidentaux, ça dit quelque chose. Et je trouve qu'avoir fait un film où tout l'enjeu repose sur un personnage dont on ne voit quasiment pas le corps, c'est chouette. Et même Terminator n'arrivait pas à ce niveau d'exploit, parce que Terminator, on ne voit le Terminator en tant que machine pure que très très peu dans le film. D'ailleurs, le moment où le Terminator se déplace et qu'il n'a plus de peau a super mal vieilli au niveau des mouvements saccadés. On voit vraiment le côté effets spéciaux et le filtre, pour le coup. Mais rappelez-vous, ce qu'on voit en première instance, c'est Schwarzy. Et Schwarzy, potentiellement à poil, d'ailleurs. Et cela dit, Schwarzy a quand même un corps extrêmement mécanique, hein. On parlait de regard fixe. Schwarzy est quand même un cas d'école, hein, en termes de regard fixe dans ce film. Waouh! Voilà. Donc voilà, je me disperse, pardon, mais tout ça pour dire, le rapport au corps dans ce film est essentiel, alors même que le corps n'est pas spécialement montré. Même quand il est sur la table d'opération, tu parlais de vue FPS. Même quand il est sur la table d'opération, on ne voit volontairement quasiment pas son corps, on ne voit que sa tête, que ses yeux. Il a d'ailleurs des flashs, des réminiscences de sa vie d'avant, alors qu'il est cliniquement décédé, en fait. On le voit intubé et on voit surtout les focales. On ne voit absolument pas son corps autre que ses yeux, en fait. Et on voit, comme tu le disais, au travers ses yeux sur la table d'opération, ce qui est encore plus dérangeant, parce qu'on est d'accord que quand vous êtes sur une table d'opération pour subir la moindre intervention, le principe d'une anesthésie et le principe de l'inconscience, c'est que justement, vous ne voyez pas les chirurgiens opérer en direct, chose qui doit être assez flippante, à mon avis. J'espère que...
Oui.
Voilà, je me rappelle de cette anecdote dont Stephen King a fait une nouvelle d'ailleurs, où en fait un mec s'était fait mordre par je sais plus quel un serpent, je crois, et en fait le venin l'avait stun, mais il était encore conscient, sauf qu'il n'arrivait pas à s'exprimer. Et en gros, il a failli passer à la morgue et être découpé alors qu'il était encore conscient, en fait. Et je pense que c'est le pire des trucs qu'on puisse vivre. Ça doit être absolument atroce, quoi.
Nouvelle peur débloquée.
C'était déjà une peur. C'est comme si tu demandais à quelqu'un la peur d'être enterré vivant ou de se retrouver conscient dans un cercueil. Enfin, c'est horrible, quoi. C'est la pire des choses. Mais voilà, je pense que pour Robocop, ces thèmes-là sont très présents et que Verhoeven a réussi à les traiter, comme tu le disais, avec la juste dose d'image. Il n'en a pas fait des caisses. Et bah, c'est pareil, même l'éclairage, la lumière, la manière dont il a réussi à filtrer, à flouter. On voit vraiment un regard mécanisé, on voit vraiment une reprise de conscience progressive, on voit à l'écran les paramètres qui s'affichent, la vision FPS, donc. Donc ouais, c'est pour ça Robocop est très très fort là-dessus.
Oui, clairement, c'est vraiment ça. Et ça va me permettre de faire le lien avec la deuxième chose dont je voulais parler, dont on reparle finalement à chaque épisode depuis le second, qui est cet échec scientifique. Et là, on a effectivement, encore une fois, quelque chose qui est de l'ordre de l'échec. Premier échec, tu t'es longtemps attardé sur le fait que Robocop existait grâce au commerce. Et encore une fois, là c'est toujours pareil. Il y a ce rapport extrêmement fort entre la science et la thune, en fait. La thune, la volonté de faire de l'argent. Et à cela s'ajoute une dimension ici qui est militaire et qui va devenir extrêmement prégnante par la suite dans les films de Cyborg, qui nous vient de Metropolis et de Potemkin. Hein. Très clairement, ça vient du cinéma des années 20-30. Hein. Et là, on a un échec scientifique qui est traité différemment parce que c'est l'échec qui va permettre quelque chose. Ce qui va permettre la naissance entre guillemets, de Robocop, c'est la mort de Murphy. Murphy meurt et à ce moment-là, il est possible d'utiliser son cadavre comme cobaye, en fait. Et encore une fois, on est sur une expérience scientifique, donc qui tourne mal au départ. Le premier robot fait n'importe quoi. En tout cas, il fait ce qu'on... Enfin, il fait ce qu'on veut, il est capable de tuer, mais ça dérape. Voilà. Et c'est toujours comme ça que ça se passe dans ces films de masques qui intègrent des personnages avec des capacités spécifiques, c'est pas, qui ne sont pas toujours des super-héros d'ailleurs. C'est qu'il y a toujours un moment où ça va très bien, tout le monde est surpris et émerveillé, et tout de suite, En termes de rythme, et c'est toujours pareil, il y a ce choix artistique de « on va faire un ascenseur émotionnel pour que ça dérape ». Et encore une fois, tout est dans la mesure de ce moment où ça va déraper, sur l'équilibre de ce moment où ça va être trop. Et ça indique une peur qui est sous-jacente, qui n'est pas celle de la police, mais qui est celle de la science, à partir de quand, en fait, ça va déraper. Est-ce que c'est la faute de l'humain si ça dérape, ou est-ce que c'est la faute de la machine? Et en soi, la machine, c'est comme l'intelligence artificielle aujourd'hui, hein, c'est en ce sens que le film n'a pas spécialement vieilli dans ce sens-là. Il peut être très actuel quand il est considéré aujourd'hui, c'est que la machine n'est pas méchante, elle exerce une commande pour laquelle tu l'as programmée. Et c'est l'être humain qui décide d'en faire ce qu'il en fait. Et ce qui fait de Robocop un personnage intéressant, c'est qu'il quitte effectivement l'agence quand il commence à avoir des souvenirs de son ancienne vie, de la vie de Murphy. Il y a ce moment assez effrayant, aussi cynique qu'effrayant d'ailleurs, où il est assis effectivement sur son siège. Là, il commence à avoir des spasmes qui sont retransmis avec des spasmes de souvenirs, et ces souvenirs sont retransmis sur une télé. Et ça, c'est quelque chose qui est réutilisé dans le cinéma d'horreur après au Japon, dans le film Ring 2, où on branche des électrodes sur la tête du personnage pour lui faire produire des images avec son esprit. Et on ne sait pas si c'est des souvenirs ou si c'est des choses qui sont produites par l'esprit. Donc là, en l'occurrence, dans Robocop, c'est des souvenirs. Et encore une fois, on est très très tôt, hein. On est en 1987, Ring 2 c'est 1999, fin des années 90, donc on est plus loin. Sous certains aspects, Robocop pose des questions sur la science et sur la manière dont elle va déraper, qui sont intéressantes dans la mesure où le personnage est rapidement laissé en fait livré à lui-même, c'est-à-dire qu'il est sous autorité d'une autre puissance qui n'est pas forcément magique d'ailleurs, hein, là où, en l'occurrence c'est des personnes tout à fait comme toi et moi, des personnes humaines, mais il n'est jamais autant laissé livrer à lui-même que quand il est tout seul. Et c'est quelque chose dont on parle assez peu, je trouve, c'est cette manière dont la personne qui a des capacités spécifiques est très vite marginalisée, sauf par une catégorie de la population qui est l'enfant. Dans la plupart de ce genre de films, il y a un rapport avec les enfants qui est très fort, qui est soit très fort, soit absent. Par exemple, dans The Mask, les enfants sont absents.
Ah, complètement, oui. Ce qui est bizarre, d'ailleurs.
Ce qui est pas plus mal. Ce qui est pas plus mal. Mais là, il y a cette scène où il y a les enfants qui le rencontrent, et dans Robocop, et quand le présentateur T s'est filmé, et quand le présentateur arrive, il dit à Robocop... qu'est-ce que tu peux quel message as-tu à faire passer aux enfants? Et Robocop répond restez en dehors des ennuis. Ce qui, par exemple, dans Spider-Man n'est pas du tout la même chose. Spider-Man a un rapport très prégnant avec les enfants, déjà parce que c'est un étudiant, et avec les enfants, enfin c'est un modèle. Robocop n'est pas créé pour être un modèle, il est créé pour être une crainte. Et c'est quelque chose dont il ne se soucie plus, en fait. Le seul moment où il pourrait y avoir une once de psychologie, c'est pendant ce moment où on lui attribue ses souvenirs et qu'il y a le moment avec le fils de Murphy. Ce moment qui, encore une fois, est à travers une télévision. Donc, on pourrait passer des heures à analyser cette séquence parce qu'elle est très complexe d'un point de vue de construction cinématographique. Et le moment où donc sa coéquipière l'aide à tirer sur des pots de, je sais plus quoi, de marmelade, enfin bref. Voilà, il y a un truc qui se fait avec l'idée de l'enfance ici qui mériterait d'être poussé parce que ce petit robot n'est finalement pas très différent du petit robot avec lequel un enfant peut jouer, tu vois. C'est le gros machin de mauvaise qualité, aux articulations mal définies, qui a un masque qui cache son expression et donc il ne peut pas être humanisé. Le but, effectivement, c'est de ne pas s'y identifier. Spider-Man, par exemple, on pouvait s'y identifier de telle ou telle sorte. The Mask, on pouvait s'y identifier parce que Spider-Man et The Mask sont des manières d'exagérer, en fait, des parties d'un être humain qui ne pourrait pas s'exprimer en temps normal. Robocop, il n'y a pas tout ça, c'est vraiment deux personnes différentes. Et c'est pour ça que je trouve intéressant que quand sa coéquipière lui demande la première fois « Qui es-tu ?» et qu'il ne peut pas répondre, et que c'est finalement elle qui le baptise en lui disant « C'est toi, Murphy ?» qui va lui revenir par la suite dans la tête quand il va comprendre que cette personne sur l'ordinateur, quand il fait des recherches dans la base de données de la police, c'est Murphy. Je trouve donc intéressant que quand on lui demande pour la seconde fois « Qui es-tu ?» et qu'il répond « Murphy », ce soit à la toute fin du film. Le noir se fait littéralement après. Et je trouve... Ouais, c'est vraiment la dernière réplique. Je trouve intéressant que ça se pose à ce moment-là parce que ça tombe pas dans l'écueil d'une forme de dualité qui est une thématique très intéressante dans les films de super-héros, mais qui, là, n'est simplement pas le sujet. Tu vois ? Et Verhoeven a cette qualité, je trouve, de rester correctement dans son sujet, un sujet qui est la satire. Et pour terminer avec le rapport avec les enfants, je trouve qu'il est ici extrêmement grinçant, sans être spécifiquement mélancolique. La scène avec son fils, elle n'est pas spécialement émouvante. La scène avec les enfants qui se rapprochent de Robocop, elle est trop rapide pour poser une quelconque émotionnalité. Et le vrai moment drôle avec les gosses, c'est un truc qui n'a rien à voir, c'est ce que tu as exposé tout à l'heure, c'est la pub, là, la séquence publicitaire où c'est la présentation littéralement d'un jeu société pour jouer une guerre nucléaire. Voilà, voilà. Donc je trouve intéressant aussi qu'on traite cet échec scientifique avec cynisme, en mode on est dans le futur et la science n'est pas une solution. Peu importe la thune qu'on met dedans. Surtout quand on la met aux thunes de l'armée.
C'est clair, tiens. Voilà. On pourrait presque terminer là-dessus, mais j'aimerais quand même dire encore deux, trois trucs. Ça serait une parfaite
solution. T'en prie, moi j'ai fini. J'ai tout dit.
C'est génial. Merci beaucoup. Ça m'évoque beaucoup de choses en fait. Déjà, ça me fait penser, et je n'avais pas formalisé des choses comme ça, que Robocop n'est pas du tout un film émouvant. Il ne tombe pas dans l'écueil du drama. À aucun moment, on sent de l'empathie pour le personnage, mais ce n'est pas à l'excès. Je veux dire... il n'est pas tombé dans l'écueil de la plupart des films américains d'être dans le drama, dans le larmoyant. Il n'est pas émouvant, ce film. Pas au sens sirupeux, tu vois. Pas, comme je disais, il n'y a pas de love story, il n'y a pas de... Même les souvenirs de Murphy sont plutôt pondérés, sont plutôt doux. Il n'y a pas... On s'apesantit pas. Tu sens vraiment que ce n'est pas ce que cherche à faire Verhoeven, déjà. Et puis, par rapport aux enfants, justement... J'aimerais faire une petite comparaison avec, on va rester avec le Terminator et notamment Terminator 2, avec le fameux Edward Furlong qui a été un enfant star à la carrière, malheureusement qui s'effondrera par la suite, mais voilà, dans le film de Cameron, il a été le jeune Connor. Et en fait, le rapport du jeune John Connor au Terminator, au gentil Terminator, donc qui a été reprogrammé dans le 2 pour protéger John Connor, eh ben c'est un rapport de poupée, c'est un rapport d'action man. Il le considère comme sa poupée et il le manipule comme si c'était le jouet pour garçons, la poupée pour les garçons. Et c'est pas anodin par rapport à Robocop de se dire que dans le surfing commercial, le vrai surfing commercial, j'ai eu des figurines Robocop. Au moment de la sortie du film, je m'en rappelle comme si c'était hier, et donc on peut vraiment jouer à la poupée avec cette armure là donc c'est pas anodin que quand on parle des enfants, que ce soit en Terminator 2 ou dans Robocop, on ait ce rapport à la poupée et à la domination de la figurine, en fait une espèce de réification totale par rapport à la figurine et par rapport au pouvoir de l'enfant qui construit son imaginaire par rapport à la figurine. Et effectivement, dans Robocop, il n'y a pas trop ça. Il y a juste cette séquence avec les enfants où ils se retrouvent à faire de la prévention sociétale en disant « voilà, écartez-vous des ennuis ». Et il y a une deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, c'est les punchlines et l'humour dans les punchlines. À partir du le moment où, pour moi, Murphy, et pas Robocop, Murphy redevient Murphy et commence à échapper progressivement à l'OCP, c'est quand il se met à balancer des punchlines. Il n'est pas, c'est évident qu'il n'est pas programmé pour avoir de l'humour ou du cynisme. Il n'est pas là pour ça. Il est là pour faire appliquer ses 4 directives. C'est tout. Rappelle-toi de la scène, et pour moi, c'est le tout premier moment où Murphy commence à refaire surface. La scène où on demande à Robocop de partir en mission, sa première mission, c'est un galop d'essai, c'est un test pour prouver la supériorité de l'OCP sur le fait que Robocop va nettoyer la ville. Rappelle-toi, on lui propose une voiture et on lance les clés de voiture. J'ai perdu le nom, je crois que c'est Morton. J'ai perdu le nom du personnage. Morton essaye de choper les clés, mais Robocop lui chope sous le nez. Il le chope au vol. Et pour moi, c'est le premier geste de rébellion, tout petit, mais déjà significatif, du fait qu'il va commencer à vivre sa vie. Et bah, notamment, il fait plusieurs interventions, notamment il protège une jeune femme de se faire violer par deux criminels. Et sa punchline, c'est « you move, creep », c'est-à-dire « à toi du con, vas-y, bouge, essaie de faire quelque chose ». Et le cynisme de Robocop est quelque chose qui participe complètement au personnage et au côté émotionnel et attachant du film au-delà de son armure et au-delà qu'ils soient complètement mécanisés justement, au-delà de ce machinisme. Et entre parenthèses, c'est un truc que le jeu vidéo actuel a complètement repris, déjà parce qu'on retrouve Peter Weller au doublage, je tiens quand même à le souligner, et le cynisme de Verhoeven est complètement là. Le personnage a des punchlines incroyables et on retrouve tout à fait l'esprit du film. Donc pour moi, le film tient aussi à ses punchlines et au fait que Robocop finit par développer un cynisme très humain, mais qui n'est pas du tout dans son programme à la base. Voilà. Donc je ne sais pas si ça suscite une réaction chez toi, mais pour moi, ça semblait très présent, en fait.
Oui, effectivement, ouais. C'est tout à fait ce que je voulais, enfin, ce que je pensais à propos de ça. Donc, je crois qu'on a fait le tour,
oui,
en fait,
oui,
concrètement, et puis on a déjà pas mal parlé sur le sujet. Finalement, peu du masque, puisque c'est vrai que ce masque fait partie d'une armure et suscite beaucoup d'autres questionnements qui vont au-delà simplement d'une forme de dualité ou d'une forme de transformation qui est le cas dans les autres films que l'on a traités. Donc c'est bien parce que ça permet de remettre en perspective ce qui peut se faire avec un masque qui n'est pas forcément quelque chose d'héroïque entre guillemets.
Oui, bien sûr. Mais effectivement on a pu traiter une vision différente du masque qui ne place pas l'identité au cœur du propos et je trouve que c'est intéressant. On aura certainement de quoi traiter d'autres films sur ce sujet. Mais je trouve que pour la première fois dans cette émission, on a pu aller vers une autre vision du masque, même si les trois masques précédemment qu'on a traités étaient quand même très différents les uns des autres, on avait quand même un dénominateur commun qui ne se retrouve pas ici, donc je trouve que c'est aussi un des points d'intérêt de Robocop. Comme tu l'as dit, et je suis très fier que tu aies aimé le film, parce que c'était un risque. Hein.
C'était un risque, ouais, pour moi, parce que c'est pas du tout le genre de film que je regarde.
Ouais, je sais bien. Et c'est un film que je t'ai un petit peu, pas imposé, mais voilà, que je t'ai proposé. Donc du coup, j'estime que pour le prochain épisode, tu as le droit de me proposer ton film à toi. Voilà, nous, on est toujours ravis de faire ces émissions-là et de vous les proposer. On va tâcher de continuer dans la mesure du possible par la suite. Et puis, il nous reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée selon le moment où vous écoutez ce podcast. Si vous n'avez pas vu Robocop, voyez-le. Et si vous l'avez déjà vu, revoyez-le peut-être avec le prisme de ce qu'on a pu vous dire. En tout cas, soyez heureux, prenez soin de vous et vivez le cinéma.
Merci à toutes et à tous pour votre écoute et votre soutien. Ça nous fait très plaisir. On espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous aura permis de découvrir comme moi ou de redécouvrir le film. On va vous mettre dans la description la vidéo d'Excitium Film, l'héritage de la saga Robocop. Elle est assez longue, mais elle brasse un certain nombre de sujets au niveau de la trilogie qui sont super intéressants. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Ça nous fait toujours plaisir. On va donc se retrouver en mars pour le prochain épisode et on vous dit à la prochaine. Ciao !
Salut !